Sara Dante. C'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Fantasiosi e più pieni di desiderio di superarsi.
Je suis Marie-Antoinette Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
Et nous travaillons au Centre culturel italien d'Antalighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
Laura Dante.
Dans cette émission, nous vous ferons voyager à travers les différents genres littéraires pour découvrir des pépites.
Questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
À chaque fois, nous serons accompagnés par des écrivains et des spécialistes du monde des lettres en Italie.
Et sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
La scoperta delle sirene era avvenuta una ventina d'anni addietro a opera di un team di scienziati dei territori, molto prima dell'epidemia di cancro alla pelle. Epidemia era il nome giusto. Anche se i medici avevano stentato a crederci, il cancro nero si poteva contagiare tramite il contatto. Qualcosa era cambiato nell'atmosfera, negli strati di protezione che separavano la Terra dalla stella del suo sistema. E ora il sole sembrava voler divorare l'umanità come un dio maligno, un dio azteco che chiedeva sacrifici. C'era chi credeva che le sirene fossero una mutazione genetica, un'evoluzione dei dugonghi o lamantini quasi estinti, per fronteggiare un mondo da cui l'essere umano era destinato a sparire. Altre creature, suboceaniche, avrebbero dominato la Terra. Donc, c'était un extrait du livre Sirène, écrit par Laura Pugno en 2007, donc il y a presque 20 ans. C'est un livre qu'on pourrait appeler une dystopie, peut-être plus précisément une dystopie posthumaine, parce que dans ce livre, les êtres humains sont menacés par ce que auparavant leur donnait la vie, c'est-à-dire le soleil. Parce que dans le monde décrit par Laura Pugno, il y a eu un changement dans l'atmosphère et donc la lumière du soleil est devenue dangereuse, presque mortelle pour les êtres humains qui se sont réfugiés, au moins certains d'entre eux, dans les profondeurs de la mer dans des villes sous-marines comme Underwater, celle où se déroule l'action du roman. Et c'est là, c'est dans les profondeurs de la mer que des scientifiques ont découvert les sirènes, ces créatures qui peut-être iront nous remplacer sur la Terre. Donc Daniele, nous voulons te demander, on parle de quoi quand on parle d'une dystopie post-humaine et on va te demander comment ces livres abordent ce sujet.
Merci pour la question. Tout d'abord, juste pour avouer ma position, c'est un de mes livres préférés concernant la science-fiction italienne. Je le trouve vraiment extraordinaire. Et nous avons invité l'écrivaine il y a une dizaine d'années à Montpellier, c'était le 2014. Elle était venue faire un atelier avec nos étudiants et nos étudiantes. Et un livre qui doit beaucoup aussi à la fréquentation intellectuelle de l'écrivaine de la culture et de la littérature japonaise, surtout manga et animé. Bon, on les voit, tout se déroule dans un Japon imaginé, mais qui a aussi des références au Japon de Akira, par exemple, le grand manga et animé japonais des années 80. Et oui, cette post-humaine, c'est très intéressant parce qu'elle prend les mythes, l'écrivain prend les mythes des sirènes, mais ces sirènes qu'elle nous décrit sont aussi autre chose, sont plutôt de presque des phoques, je dirais, d'un point de vue physique, mais avec des éléments humains. Et il y a aussi une critique aux élevages intensifs, mais aux élevages en général. Bien évidemment, on parle de changement climatique, de réchauffement climatique en 2007, donc un peu à l'avance par rapport, je dirais pas à la mode d'aujourd'hui, mais au fait qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. Et il y a aussi la question du genre, donc, c'est-à-dire que c'est aussi un livre écoféministe parce qu'il y a la question de l'homme qui exploitent les sirènes, ils l'exploitent d'un point de vue commercial, parce que cette viande de sirène est une viande apparemment extraordinaire pour la manger, mais aussi sexuelle, parce que souvent les sirènes sont violées par des hommes. Il y a tout un marché criminel, non, géré par la Yakuza, justement la mafia japonaise, sur les sirènes.
Oui, et on pourrait dire donc que la condition des femmes dans le monde de sirène, pas seulement elle n'a pas avancé, la condition des femmes, mais elle a empiré, et la condition des femmes humaines et des sirènes aussi. Parce que, comme tu le disais, les sirènes sont exploitées pour leur viande, mais aussi pour... pourquoi parce qu'ils sont des créatures féminines. Et donc, par exemple, le protagoniste Samuel a en fait un rapport sexuel avec une sirène, et dans leur on pourrait dire relation on est Mia, le premier hybride mi-humaine mi-sirène. Donc qu'est-ce que ça peut nous dire, quelle est ta interprétation de ces nouvelles créatures qui est le résultat d'une de cette rapport.
Oui, alors d'abord il faut dire que Mia est la conséquence d'une violence, non? Parce que la relation de Samuel avec la sirène est une relation violente. Donc, et je crois que les romans, à la fin, nous font comprendre que oui, peut-être que le genre humain terminera sa vie sur Terre de façon... Tôt ou tard, ce sera le cas. Bon, je ne veux pas être trop déprimant, mais on le sait, tôt ou tard, ce sera 1000 ans, 4000, 5 millions, mais tôt ou tard, ce sera le cas. Mais cela ne veut pas dire que ce sera la fin de toute vie sur Terre. Il y aura autre chose, peut-être pas forcément pire. Et effectivement, au début, quand on lit ce roman, on a l'impression de considérer les sirènes comme des animaux qui n'ont pas vraiment une intelligence, non ? Ou après on comprend autre chose, ce sont des animaux qui n'ont pas une intelligence humaine, ce que ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une intelligence.
Oui, l'autrice, si je me rappelle bien, a la tendance à comparer les sirènes et les vaches pour leur tempérament. Donc ces créatures ne sont pas pareilles à l'idée que nous avons des sirènes grâce aux contes, grâce aux histoires traditionnelles. Mais voilà, ça a aussi à voir avec le féminisme, on pourrait dire, parce que Laura Pugno nous décrit en façon particulière de voir les êtres humains, mais aussi les femmes, et aussi la nature. Donc c'est pourquoi ces livres peuvent nous parler de féminisme, de éco-critique et de post-humaine, on disait auparavant.
Oui, juste une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, il avait eu un projet de série à partir de ce roman. Et je connais l'écrivain, donc elle m'avait montré... Vous savez, quand on commence une série, on commence à faire aussi des dessins, on commence à imaginer l'affiche. Après, je crois que le projet s'est bloqué. Et elle me montre l'affiche, elle était contente, parce que quand même c'était une série sur son roman. Elle me montre l'affiche, et dans l'affiche, il y a une sirène classique, c'est-à-dire moitié poisson, moitié femme. Et je dis, mais Laura, c'est... exactement le contraire de ce que ton roman décrit. Tu nous décris plutôt justement un élevage de vaches, de mammifères, disons comme ça. Et la série revenait à l'image un peu stéréotypée de la sirène. Moi, j'ai trouvé ça dommage, mais bon, bien évidemment, peut-être que l'idée était quand même intéressante, je ne sais pas. Mais visuellement, c'était très différent de ce que j'avais lu.
Moi, je voudrais revenir sur, au sens plus large, sur la science-fiction et le rôle qu'il a aussi pour parler des sujets sociétaux. Donc, par exemple, la pression à la reproduction qu'on vit actuellement, même juste en France. Il y a eu des discours pour le fait qu'on ne fasse pas d'enfants. Et dans ces livres qui a été écrit il y a 20 ans, on voit vraiment cet élevage, le fait que les mammifères sont traités pour la reproduction et pour la survivance de l'espèce, et que cette image du poisson a été aussi déjà employée dans la science-fiction pour parler des questions des genres. Je pense aussi, si on va très loin, à Andersen et la Sirenetta. Le fait que la Sirenetta perd sa queue, c'était déjà à l'époque pour parler de l'homosexualité ou des questions des genres, l'appartenance des genres. Donc, moi, je crois, pour revenir au sens plus large à la science-fiction, Daniel, comment les genres ont pu souligner des thématiques sociétales comme cela?
Alors, juste pour revenir au mythe des sirènes, c'est vrai, effectivement, déjà Andersen en faisait une question aussi de genre, mais il y a même des réécritures postcoloniales du mythe des sirènes. Par exemple, dans la mer Atlantique, des anciennes esclaves qui devenaient sirènes. Donc, c'est effectivement un symbole puissant et très intéressant. Et par rapport à la question de la maternité, il y a un très beau roman de science-fiction d'une écrivaine italienne, d'une écrivaine qui s'appelle Maria Rosa Cutrufelli, qui a toujours été une écrivaine réaliste et qui écrit ce roman qui sort vraiment quand commence la pandémie, donc elle n'a pas eu beaucoup de chance pour les présentations et tout ça, qui s'appelle Il Grande Vuoto. Et Il Grande Vuoto raconte
Le Grand Vide,
une Italie, notamment la Sicile, qui est à moitié rempli d'eau pour les changements climatiques, et pratiquement une Italie où il n'y a plus d'enfants, et les seuls enfants qui naissent sont des enfants qui naissent dans une clinique privée de reproduction, une clinique bien évidemment gérée avec de l'argent d'une famille super puissante qui pratiquement devient une famille qui peut gérer le monde du demain, parce que c'est la famille qui décide qui naît, quand, comment, pourquoi. Donc effectivement, c'est une question que la science-fiction maintenant analyse et souligne.
La baisse démographique, comment on va faire face à ça? Comment les femmes et les constructions que les femmes devront subir à cause de ça? Donc encore une fois, la science-fiction aussi nous porte l'attention sur des sujets importants, et on a cité tout à l'heure Rosie Braidotti, qui est une grande écrivaine féministe, donc si les féministes s'intéressent à ce genre, c'est aussi parce que cela est porteur de valeurs. Je pense à un livre qui n'est pas italien, de Handmaid's Tale, que c'est considéré une dystopie, c'est Margaret Atwood, et ça parle aussi de la reproduction forcée pour sauver l'espèce, pour sauver l'humanité. Je trouve aussi intéressant que d'autres personnes, d'autres intellectuels de gauche, à part Rosie Braidotti qu'on a déjà cité, il y a aussi Antonio Gramsci, que alors que pendant le fascisme il était incarcéré en prison, lui il écrivait sur la science-fiction.
Oui, alors Gramsci a toujours eu une grande attention à la culture populaire, aux productions populaires. Donc c'est clair que la science-fiction pouvait l'intéresser. Je me demande aussi, mais ça c'est peut-être une considération très banale, mais voilà, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Je me demande aussi si l'effet d'être en prison totalement détaché du monde faisait en sorte que la science-fiction lui donnait aussi la possibilité d'imaginer encore plus au-delà de ces murs. Mais effectivement, à chaque fois que je relis des extraits, des morceaux de Quaderni al carcere, cahiers de Gramsci, vraiment, je reste étonné, parce que je me demande comment cette personne totalement détachée du monde, en prison, malade en plus, avec même des soucis personnels, parce que sa femme, ses enfants qui étaient en Russie, etc., etc., pouvait être si aigu, intelligent dans l'analyse du monde qu'il vivait.
On rappelle pour les écouteurs, Antonio Gramsci, c'était un grand opposant politique au fascisme. Il a été cofondateur du Parti communiste, donc c'est pour ça aussi qu'il a passé grande partie de sa vie emprisonné. L'ora Dante, c'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Con l'amore è l'unico sentimento che ci fa battere il cuore.
Je suis Maria Antonietta Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
E noi lavoriamo al Centro Culturale Italiano Dante Alighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
L'ora Dante.
Questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
Tous les livres dont nous avons parlé sont disponibles dans notre bibliothèque au 25 rue Saint-Ursule, car le but de notre association est de promouvoir la langue et la culture italienne sur le territoire de Montpellier. Alors, venez nous rendre visite dans l'Écusson.
La prima che incontri per strada che tu coprirai.